Salut tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il vous bénisse richement, puissamment, abondamment. Amen. Il y en a qui sont là pour la première fois, non? Je ne sais pas, Magoudé n'est pas là, je crois qu'on s'est loupé. C'était son anniversaire hier. Toute la semaine, je n'étais pas bien. Et j'ai complètement oublié. J'ai essayé de l'appeler ce matin, mais je n'ai pas pu la voir. Néanmoins, nous lui adressons nos salutations. Nous allons prier. Père Céleste, c'est cet immense avantage ce matin que nous voulons exploiter parce que tu nous accordes la vie, la santé. Tu nous accordes, ô Dieu, le moyen de pouvoir arriver en ce lieu, pouvoir nous rassembler avec les bien-aimés, unir nos voix, ô Dieu, et tous ensemble de concert, nous puissions t'adresser nos louanges. Nous savons que tu t'y plaisons, que tu t'y plais au milieu des louanges de tes enfants. Et c'est le sujet que tu nous as donné aujourd'hui. Nous te demandons tout simplement de nous assister en toutes choses. Nous te demandons de bénir chacun d'entre eux selon leurs besoins. Certains ont besoin de santé, certains ont besoin de force, certains ont besoin d'être relevés, de courage, certains ont juste besoin de te louer. D'autres ont le besoin d'être consolés. Que tout cela, tous ces attributs de consolateur, de guérisseur, tout cela se trouve en toi. Et c'est au travers de tes enfants que tu manifestes tout cela. Et nous te remercions de ce que aucun de tes attributs ne reste éloigné de nous. Ô Dieu, tu nous les accordes, ô Dieu, par pure grâce. Nous ne les méritons pas, mais nous apprécions très fort, au fond de nous-mêmes, la grâce que tu nous fais. Bénis ta parole ce matin et que tu relèves ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons notre prière. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens. Chapitre 1er. C'est là que nous nous sommes quittés dimanche. Nous avons vu le but de l'élection. Quel est le but visé par Dieu pour avoir, en élisant un groupe de personnes, tout un peuple. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. Que Dieu soit béni, qui bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Il nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables C'est-à-dire que sans l'élection, il est tout simplement impossible d'être saint et irréprochable devant lui. C'est l'élection qui fait de nous qu'un jour nous soyons saints et irréprochables. Chez les catholiques, on dit qu'il faut avoir fait un miracle. Judas en a fait, mais pas du tout le saint dont on peut parler. Alors, saint irréprochable, c'est-à-dire lorsque nous aurons à paraître devant lui. On ne peut pas paraître devant lui dans la condition dans laquelle nous nous trouvons. En tant que pécheurs, on doit paraître qu'il n'y ait rien à nous reprocher. Et cela, il s'en charge. L'élection s'en charge. Il nous a prédestinés. Nous sommes destinés à cela. Dans son amour, uniquement par amour, à être ses enfants d'adoption. Et nous savons que l'adoption vous donne les mêmes droits qu'un enfant engendré. Ça va? Ça veut dire que nous avons les mêmes droits que son fils. Que son fils unique, nous sommes co-héritiers avec lui. Selon le bon plaisir de sa volonté. Il a voulu que ça soit ainsi. Et il nous a élus pourquoi ? Pour que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce. Célébrer la gloire de sa grâce. Pourquoi ? Parce que par cette grâce, il nous a favorisés dans le bien-aimé. On a pris l'exemple de l'arbitre, n'est-ce pas, qui arbitre une compétition et un événement. Lorsque il y a lieu de siffler, parce qu'il y a une faute, l'arbitre siffle. Ça va? Lorsque quelqu'un commet une faute, un péché, l'arbitre siffle. L'arbitre, c'est Dieu. Le péché va nous être redemandé. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors, la faveur des élus, c'est quoi? C'est que quand un élu trébuche, Dieu ne siffle pas. Vous voyez? Vous allez vous en prendre à l'arbitre. Arbitre, où est-ce que tu as les yeux? Ben, l'arbitre ne fait pas siffler. Il ne siffle pas. Celui qui entre dans le lieu saint sans être lévite, il est frappé de mort. David y est entré, il s'est même servi, il est sorti, et Jésus en a parlé. Il a dit, il est entré, et Dieu n'a pas sifflé. Gloire à Dieu, Dieu n'a pas sifflé. Et pourtant, le pain était réservé au sacrificateur. Or, David n'avait rien à voir à faire avec le sacerdoce. Mais c'est le bien-aimé de Dieu. Nous savons ce qu'il a commis. Comme faute, du moins ce qui est écrit. Il en a peut-être commis d'autres qui ne sont pas écrites. Mais ce qui est écrit était déjà suffisant pour qu'il soit déclaré mort. Pour que Dieu siffle sa mort. Lui-même le dit. 2 Samuel 12. Donc, c'est une faveur. Ça veut dire que l'arbitre est pour eux, oui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Dieu est pour nous. Je ne dis pas qu'on va faire, on va faire le mal exprès, mais non, vous n'êtes pas destiné à ça. Vous êtes destiné à faire le bien. Et vous n'y pouvez rien. Votre destinée, c'est faire le bien. Donc, vous n'allez pas dire, donc je peux pécher exprès. Si vous péchez exprès, c'est que vous êtes un ouvrier d'iniquité et vous n'êtes pas élu. Amen. Un élu ne pêche pas exprès. Et en tout cas, quand il tombe, il confesse et Dieu efface l'ardoise. Il n'a commis aucune faute. son casier judiciaire est vierge. Dans 2 Samuel 12, nous lisons ceci. La faute est racontée. Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Ça, c'est le verset premier. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. C'est fou, c'est qu'il était attaché à sa brebis. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. C'est quand même bizarre, les riches, hein, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Amen. C'est exactement la sentence que cet homme méritait. Au verset 7, et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'aurais même encore ajouté. Ouais. Au verset 13, David dit à Nathan, c'est la caractéristique de l'élu. L'élu commet une faute, il reconnaît. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Oh, Seigneur, comment est-ce que David ne meurt pas? Dieu veut que ça soit ainsi. Comment est-ce que moi je ne meurs pas? Dieu veut que ça soit ainsi. Malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai fait. Gloire à Dieu. Israël n'a pas arrêté de murmurer dans le désert. Murmurer contre Dieu, contre Moïse, jusqu'à même adorer un veau d'or. Et finalement, qui ça? Lorsqu'ils veulent traverser les plaines de Moab, ils sont sur le point de traverser les plaines de Moab, le chef, le roi moabite, n'en veut pas d'Israël. Au lieu de leur dire non, passez par un autre chemin, il demande carrément à quelqu'un qui a la parole de Dieu en bouche, quelqu'un qui maudit les gens. Et quand il maudit, les gens sont maudits. Quelqu'un, quand il bénit, les gens sont bénis. Et il va le trouver, lui dire, non pas bénis-moi Israël. Non, il va lui dire, maudis-moi Israël. Balak, le roi moabite, va trouver Balaam, le prophète, et lui dit, dans Nombre 23, verset 7, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob, viens, sois irrité, sois fâché contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Il a commis des fautes, mais Dieu ne l'a pas maudit. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Alors maintenant, au lieu de le maudire, il se met à le bénir. Je le vois au sommet des rochers, je le contemple. Je le regarde, il dit, je les contemple. Contempler, c'est regarder avec admiration. Amen. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Vous êtes des gens à part, qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes. et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Mais que m'as-tu fait ? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. » Il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» Alors, le problème au Balak, sache ceci, au verset 20, il dit, ce qui se passe, hein, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. » Qui t'a donné cet ordre ? Mon patron.
Amen.
J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Les fautes dont toi tu me parles là, il ne voit pas ça. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Alors, ce peuple, quand il réalise ça, lorsque vous réalisez que malgré les fautes que vous avez commises, malgré les iniquités dont vous êtes coupable, eh bien, vous réalisez que Dieu vous bénit quand même, ça provoque une certaine réaction chez vous. Ça doit provoquer une réaction chez moi. Lorsque je vois que malgré mes fautes, Dieu m'aime quand même. Dieu ne me lâche pas. Il ne me laisse pas tomber. Et qui ça ? Dans tout toujours, dans Nombre 23, qui ça ? Balaam dit ceci au verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Donc, il les a sortis de l'esclavage. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Ça va ? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Les sorcelleries là, ça n'a rien à voir à faire avec Jacob. Faites ça avec d'autres. Oui, vous attraperez des membres d'église, oui. Vous attraperez des membres d'assemblée, oui. Mais pas des élus de Dieu. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu ? Alors, quand Israël va apprendre ça, ça va susciter quoi, Israël ? Cela va susciter de la joie en Israël. Cela va susciter de la joie de la part de son peuple élu, par pure grâce que Dieu leur a fait grâce. Alors, cette joie-là, Israël va l'exprimer. Comme chaque élu exprime sa joie quand il apprend ce que Dieu a fait pour lui. Et l'expression de cette joie, elle se fait comment ? Psaume 22. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore. C'est pas ce que c'est, la biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Et justement, à cause de cette délivrance, Israël louait Dieu. Nous intitulerons le sujet ce matin « Dieu siège au milieu des louanges d'Israël ». Ça va nous servir de transition lorsque nous irons vers le sacerdoce royal dont nous sommes. Donc, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. C'est une expression de joie. Et cette joie, Le prédicateur ne doit pas commander. Je ne peux pas vous commander louer Dieu. Si maintenant l'Esprit vient vous saisir là tout de suite pour que vous louez Dieu, comme ce n'est pas le moment, parce qu'il y a prédication pour le moment, l'Esprit qui est soumis au prophète, l'Esprit va faire de sorte que ce désir de louer Dieu, l'Esprit va faire attendre cette expression-là jusqu'à ce que la prédication soit terminée. Et lui-même, le prédicateur, à un moment donné, quand il a assez parlé, l'Esprit lui dit stop. S'il continue à parler, il va commencer à dire des choses qui vont endormir les gens. Oui, l'Esprit va lui faire comprendre que c'est le moment d'arrêter. Et si c'est quelqu'un qui a ce contact avec le Saint-Esprit, il va arrêter. Et l'Esprit vous donne toujours le moyen d'arrêter. Comment conclure? Alors, maintenant, si vous avez ce désir-là de commencer à le louer, comme ce n'est pas le moment, l'Esprit va le soumettre. Il va attendre. C'est là où vous voyez, une fois la prédication terminée, vous voyez quelqu'un commencer à louer Dieu. Et tant qu'il loue Dieu par l'Esprit, on le laisse louer. Parce qu'à un moment donné, on voit qu'il est arrivé à la fin, ben, on peut commencer à prendre la relève tout doucement, n'est-ce pas, pour que, bon, il s'arrête. Je crois qu'il y en a un qui s'est appris ici dimanche passé, n'est-ce pas, il n'arrivait plus à s'arrêter de prier. Alors qu'on lui a demandé de prier pour conclure le culte. Il s'est mis à prier, d'abord à chanter. On lui demande un cantique, il en chante 3 ou 4, et très long. Oui. Et il avait ce désir-là de le faire. Hein? Vous pouviez le regarder. Hein? Lui ne vous voit pas. Amen. La personne est dans une autre dimension. C'est une dimension que si vous avez des problèmes, que vous aimeriez bien atteindre. Ah, j'aimerais bien être là, comme ça, au lieu d'être accablé par ses soucis. Et laissez vos soucis à ses pieds. Abandonnez-les. Il prend soin de vous. Ah, vous le croyez, hein? Ah, gloire à Dieu. Alors, donc, la louange, elle vient spontanément. Elle vient quand? Elle vient à la vue de ses œuvres. Par exemple, comme le frère qui chante, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Donc, il voit les œuvres de Dieu, il dit, mon cœur heureux. Rien que le fait de voir une montagne, au lieu d'être quelque chose de banal pour lui, c'est tout simplement merveilleux. Ça chante là, au-dedans de lui. Amen. Gloire à Dieu. J'aime ça. À la vue de ses œuvres, quand vous entendez aussi ce que Dieu a fait pour vous, quand vous voyez ses œuvres, et ce n'est pas seulement... Ça ne concerne pas seulement l'homme, ça. La création tout entière. Amen. Tout entière. Tant dans les cieux que sur la terre. Psaume 148. Maintenant, on va voir si il faut lire tout le psaume. J'essaie de voir où je peux arrêter. Je ne voyais pas. Psaume 148. Écoutez ça. Personne n'est oublié. Louez l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel du haut des cieux. Amen. N'ayez pas peur. Louez-le. Amen. Vous ne faites pas beaucoup de bruit. Dieu vous a créé pour ça. Amen. Louez l'Éternel du haut des cieux. Amen. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges. Ses anges le louent comment? Oh, Dieu est merveilleux. Il est saint. Il le loue comme cela. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Dites amen à ça. Que le soleil ne se taise pas. Que la lune ne se taise pas. L'homme aime s'asseoir dans son laboratoire, avoir son télescope, et il essaye d'étudier le soleil, tellement le soleil le fascine. C'est quelque chose de merveilleux, le soleil. La lune également, elle a l'air bizarre comme cela. Ils sont descendus sur la lune, on dirait que tout est mort, mais ils y vont quand même. Tellement sa création est belle. Et quand la lune contemple la terre. Vous avez déjà vu des photos de la terre depuis la lune. C'est merveilleux. Hein? La lune doit se dire, mais elle doit se poser la question, mais qu'est-ce que ces humains ont à venir faire ici chez moi, alors qu'ils ont une si belle planète. Il n'y a pas de planète aussi belle que la terre. Amen. Oh. Ils sont là, ah, Saturne, c'est beau. La Terre, elle est belle. Saturne, elle est belle, oui. Mais la Terre est encore plus belle. Commence d'abord par apprécier la beauté qui t'entoure. Amen. Louez le soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Oh. Louez-le. Cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, il y a des eaux au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Amen. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. C'est pour cela que l'été commence toujours à la même date. Amen. L'automne commence toujours à la même date, n'est-ce pas? L'hiver également, le printemps également. Et on peut vous dire à quelle heure le soleil se lèvera demain, parce que les lois de Dieu sont parfaites. Et Monsieur Météo, il est mort celui-là, l'ancien Monsieur Météo, avait dit à la télé, puisqu'il avait donné des prévisions qui ne s'étaient pas avérées exactes. Alors, on lui a posé la question à la télévision, « Comment se fait-il que vous vous trompez ?» Il dit, « Est-ce que la science n'est pas encore au point, la science météorologique ?» Il dit, « Je vais vous étonner, la météorologie est une science exacte. » Il dit, « Quand on se trompe, ce n'est pas la météo qui se trompe, c'est l'homme qui se trompe. » Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse son âme là où il est. Amen. Donc, c'est parfait. Louez l'Éternel du bas de la terre. Il y a des vers de terre là-bas. Même les vers de terre. Louez l'Éternel. Monstres marins. Et vous tous, abîmes. Feu et grêle. Neige et brouillard. Vent impétueux. Qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes de tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Comme quoi, la chorale, ce n'est pas juste une affaire des anciens. Dieu te bénisse, Abel. C'est bon, c'est pour tout le monde. Oh, la chorale des vieux et la chorale des jeunes. Non, il y a une chorale. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un avait suivi, depuis le Congo, les enfants chantaient. Il a dit, oh. Mais les enfants, c'est une très bonne chorale. Moi, je dis, c'est pas une chorale, fiston. C'est pas une chorale. Ce sont des enfants que notre sœur, hein, tu le connais, hein, Marie-Élise, c'est Eddie qui m'a dit ça. Alors, je dis, c'est la maman de Bérénice qui les appelle. Qui dit, les enfants qui veulent chanter. C'est pas une chorale. Les enfants ont juste envie de chanter, ils viennent et ils chantent. Il dit, mais c'est pas possible. Mais je dis, et ils ne répètent qu'un seul jour. Amen. J'aime ça. Gloire à Dieu. Ah, je ne sais pas s'il suit là aujourd'hui. On le salue au nom de Jésus-Christ. Je lui dis, va à l'assemblée à Lingua. Il ne veut pas. Il préfère suivre ici. Où en étais-je? Verset 13. Qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Ça, c'est tout ce que Gabriel s'est chanté. Et il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Et dans cette louange, vous n'êtes pas là, juste. Louez l'Éternel, oui. Non. Dans la louange, vous y associez des gestes. Ah ouais. Parfois, vous voyez des choses. Acclamez le Seigneur. Acclamez, ça veut dire quoi? Avec des cris, avec des battements de mains. Vous, Satan vous fait croire qu'il ne faut battre les mains que pour Satan. Que quand vous essayez de battre les mains pour Dieu, si l'Esprit vous pousse à battre les mains, battez les mains. Parce que c'est Satan qui a inventé le battement des mains. C'est un usurpateur. Oui. Vous y associez des gestes. Vous élevez vos mains. Vous dansez. Amen. Dites amen à ça.
Amen.
Vous dansez, mon sang. Vous dansez, n'est-ce pas?
Amen.
C'est pas moi qui te dis, hein. David nous le dit ici. Hein. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Je disais ici, je crois, c'était en semaine, je crois c'était mercredi, je ne sais plus. Si je savais jouer de la trompette, je viendrais avec la trompette. Ne me dites pas que c'est interdit à l'assemblée. Vous savez que les anges savent jouer de la trompette. Vous voulez que je vous montre des anges qui jouent de la trompette? Alors, si les anges peuvent jouer la trompette là-bas, moi aussi je peux jouer la trompette pour louer mon Dieu. Amen. Louez-le avec le luth et la harpe. Faire un instrument spirituel, c'est le luth et la harpe. Surtout, ne prends pas d'autres instruments. Ah bon? Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Ah! Avec le tambourin. Oh! Louez-le. Amen. Le tambourin, c'est un petit tambour. Hein. Vous savez ça? Hein? Frère Gaspard, c'est un petit tambour. Hein. Amen. Loue ton Dieu avec ça. Satan va te faire croire que ça va faire, il va sortir des cloches. C'est pas grave. Qu'il en sorte des cloches. Quand tu arriveras là-bas, on va te demander, montre. Toi, tu as loué Dieu là-bas. Oui, j'ai loué Dieu. Amen. Plein de cloches. Gloire à Dieu. Mais quand vous avez une main trop lisse, tu n'as même pas battu les mains. Il faut une main qui a des mains qui ont travaillé. Gloire à Dieu! Vous arrivez là-bas avec une voix très bien travaillée. Donc, non! Vous avez hurlé! jusqu'à en perdre la voix. Frère François, quand tu prêches, dis un peu ça moins fort. Fils de l'homme, parle au cœur de Jérusalem. Que dirais-je? Crie au cœur de Jérusalem. Qu'est-ce que je dois dire? La parole de l'Éternel dure éternellement. Ésaïe 40, c'est Ésaïe 40, mais on ne va pas le dire. Louez-le avec le luth et la harpe, avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes, la guitare, le violon et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Ah, dans votre assemblée, vous avez même des batteries. Et oh, ce sont des cymbales. Ce que vous voyez là, ce sont des cymbales. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et fiston, David, tu aimes Dieu? Les cymbales, tu sais jouer ça? Joue ça de toute ta force. Je vais te dire pourquoi après. Que c'est que tout ce qui respire loue l'Éternel.
Amen.
Louez l'Éternel.
Yes.
Ah, on peut être dans la joie, n'est-ce pas?
Amen.
Vous savez, un enterrement d'un être cher, je suis triste. Je pleure. Je louais Dieu en pleurant. Je suis triste. À d'autres événements, j'ai quand même le droit d'être joyeux aussi. Je ne vais pas être grave et triste tout le temps de ma vie.
Non.
Mon frère, doucement. Mais non, laissez-moi m'exprimer. Vous voulez seulement que je crie ma douleur, mais je ne peux pas crier ma joie. Laissez-moi crier aussi ma joie. Et enfin, je suis dans la joie. Non, non, non. Vous êtes dans la joie. Criez. Bien. Et Dieu aime ça. Et Dieu siège au milieu de ses enfants. Avec ça. Donc, vous le louez avec des instruments. Vous voyez bien que la louange, elle est liée à la musique. Dans notre vie, quelles que soient les circonstances, nous avons la possibilité de louer Dieu. Même dans la tristesse, même dans le deuil, on le loue selon le deuil. On le loue selon la joie que nous avons. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Oui, il bénit Dieu. Parce que Dieu lui a manifesté sa miséricorde. Dieu l'a régénéré pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. Alors quand vous voyez ça, mais vous êtes heureux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ça arrive, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Philippiens 4. Philippiens 4. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien.
Amen.
Jésus-Christ l'a dit. Il a dit qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, bonne et ou mauvaise, toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, les bonnes choses et les mauvaises choses. Faites connaître vos besoins dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses, par des prières et des supplications avec des actions, des actes, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. C'est quoi les actions de grâce ? 1 Chronique 16. On va voir comment il louait Dieu dans le temple. David, conduit par le Saint-Esprit, certainement, il regarde comment les gens allaient en ayant peur à l'assemblée, au temple. Il dit non, mon Dieu ne peut pas être loué comme ça. David, c'est moi qui dis ça. David, il désigne des gens, n'est-ce pas, pour louer Dieu. Pas n'importe qui. On ne va pas prendre n'importe quelle tribu. David va choisir une tribu bien précise pour louer Dieu. Verset 1er, 1 Chronique 16. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu est entrée. Nous savons comment elle est entrée, hein, au milieu des danses, hein, où David a dansé. Hein. On lui a amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ça va? La louange étant associée à ces sacrifices. Non seulement les sacrifices d'expiation, les holocaustes, mais les sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, hein, sœur Françoise, et un gâteau de raisin. Il leur a donné un morceau de viande. Oui. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, la charge d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et vous les Lévites, ne venez pas nous chanter juste toujours, hein, des marches funéraires. Hein. Nous voulons aussi, hein, des marches de joie.
Amen.
Pas seulement, pas les autres tribus, seulement les Lévites. Pourquoi? Parce que les Lévites vivaient près du temple. Ils s'occupaient du temple, ils voyaient la gloire de Dieu, ils voyaient toutes ces choses glorieuses qui étaient là, ils voyaient ça. Donc eux, ils étaient à même de louer Dieu. Et si vous regardez le verset suivant, vous allez voir, ils avaient des instruments de musique, hein, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Asaph jouait la batterie. Ce que vous appelez aujourd'hui le drum. Allez dire à Asaph que c'est mondain. Amen. Il y a un rapport étroit entre la louange et le sacrifice. Nous en parlerons, hein, quand nous entrerons dans les sacerdoces. Parmi les actions de grâce, donc, il y a le sacrifice. Nous allons voir quel genre de sacrifice c'est. Il y a aussi les prières. Les prières peuvent aussi être considérées comme des actions de grâce. Dans Lévitique 7, verset 11, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Une première chose à retenir, le sacrifice d'action de grâce ne se faisait pas n'importe comment. Cela se faisait selon une loi. Selon la loi que Dieu a établie. C'est-à-dire, quand on vient le louer, on ne vient pas le louer n'importe comment. Il doit y avoir un ordre, une loi bien établie en ce qui concerne la louange. On ne va pas se dire, je vais commencer maintenant à louer Dieu à ma manière. Il n'y a pas votre manière, il y a une seule manière, celle de Dieu. Ça va? Et c'est de Dieu, mais ça, c'était au moment où on offrait les sacrifices. Paul dit ces choses-là, dans Hébreux, il dit ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu avait appelé Moïse sur la montagne pour lui montrer comment lui présenter un culte. Vous et moi, qui avons reçu le message du temps de la fin. Nous avons vu, nous avons appris que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Que ce qui se passait avant, dans le naturel, c'était un type. Aujourd'hui, dans le spirituel, nous voyons ce qu'il y a dans le spirituel. Et Paul explique dans Hébreux ce qui se passe. Alors, le sacrifice d'action de grâce, on l'offrait quand? On offrira à l'Éternel, verset 11. Verset 12, si quelqu'un, donc c'est à l'Éternel qu'on offre, si quelqu'un l'offre par reconnaissance. Reconnaissance, c'est-à-dire la gratitude. Ça veut dire, on est apte à dire merci, à reconnaître on vous fait un bienfait. Il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain, arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Tout ça à l'huile, selon l'Esprit. Et ces gâteaux, ces galettes devaient être sans levain. Si vous venez avec cela, étant levé, Dieu n'acceptera pas le sacrifice. pouvez le faire, hein. Mais maintenant, si les élus le font, Dieu va frapper. Si Dieu ne frappe pas, posez-vous des questions concernant l'élection. Parce qu'un élu fera les choses comme Dieu demande qu'on le fasse. À ses gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, lui, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Donc, je veux dire merci à Dieu pour quelque chose qu'il a fait dans ma vie. Maintenant, quand je dis merci, je vous dis merci. Je vais vous dire merci quand, au moment où vous faites la chose pour moi, ou vous me la donnez, ou que sais-je. Si vous me dites, si c'est juste une promesse, je vais vous dire, ah, merci d'avance. N'est-ce pas? Mais au moment où vous me donnez, où vous me rendez ce service, je dirai merci. Je ne vais pas vous dire merci dans 5 ans. Ou dans 6 ans. Ah, merci hein, pour l'histoire d'Yassaya. Non, non. J'avais tout le temps de dire merci. Quoi? J'avais tout le temps de dire merci à Dieu, de lui offrir ce sacrifice. Et Dieu va ou non accepter. Maintenant, s'il est offert selon les règles, Dieu va l'accepter. Sinon, je ne sais pas si j'ai noté le passage, mais j'en connais un où il va vous dire, vos sacrifices dans Ésaïe 1er, vos fêtes, vos histoires, il dit, j'en suis fatigué. Il les a laissés faire. Et Dieu, à un moment donné, il a dit, j'en suis fatigué. On présentera par élévation à l'Éternel une portion, n'est-ce pas, de chaque offrande, elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. Ça va? On peut s'arrêter là. Ces reconnaissances, quand est-ce que les enfants d'Israël avaient besoin de venir, de dire merci à Dieu? On va prendre un exemple. Non, en fonction du temps qui nous reste, parce que m'a tiré des oreilles vendredi, n'est-ce pas? Frère Nestor m'a mis dans une situation difficile de vendredi. Il a prêché 20 minutes. Dans Deutéronome 26, regardez. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Je suis entré, donc je dis merci. Et la manière de remercier Dieu, c'est de prendre les prémices. Ça veut dire les premiers produits que vous avez tirés de la terre, pas le restant. Le non-là vient du cœur. Pas le restant, mais venez avec les premiers produits. Vous ne gardez pas les premiers produits pour vous, non. Dieu veut les prémices. Dieu ne veut pas les restes. Et vous venez dire merci à Dieu pour cela, parce que maintenant vous venez de récolter dans cette terre que Dieu vous a donnée. J'y suis entré, Dieu merci. La terre a produit, Dieu merci. Je viens avec la production jusqu'au temple et je dis, je présente cela. Donc je sacrifie ça. Et souvent, les premiers fruits sont les plus beaux. Amen. Et en plus, vous ne savez pas quel genre de production vous allez tirer par après, parce que vous ne savez pas si va... Par exemple, si vous prenez l'exemple du blé, vous savez que le blé, il doit être récolté, quand il est récolté efficacement, il doit être récolté quand il fait sec. Quand il pleut, quand il y a les grosses pluies, n'est-ce pas, les tiges de blé vont se coucher. Hein? Les agriculteurs appellent cela la verse. Le blé a versé. Hein? Nous avons des agronomes ici, ils vous expliqueront. Le blé a versé. Et quand il pleut trop, vous les entendez se plaindre. À la télévision, les agriculteurs se plaignent parce qu'il pleut trop. Hein? Donc, maintenant, ceux qui ont pu mûrir pendant qu'il faisait sec, avant que la pluie ne tombe, ceux-là, les premiers qui sont sortis, ce sont ceux-là que Dieu veut. Vous les sortez de la terre et vous amenez la gerbe de merci. Alors que la nature humaine va vous pousser à dire, non, je vais quand même attendre pour voir si j'aurai suffisamment. Non, non. Prenez ça. Ayez foi en Dieu. S'il n'y en a pas, ben il n'y en a pas. Mais vous avez offert votre... Vous avez fait votre offrande. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Donc ici, ce sont des sacrifices. Donc vous sacrifiez cette récolte-là, enfin cette partie-là de la récolte, pour remercier Dieu du fait que Dieu vous a donné un temps favorable à la culture, à la production. Vous avez de quoi remercier Dieu. Nous avons de quoi le remercier aujourd'hui, en tant que chrétiens, pour la guérison, pour la délivrance, notre délivrance du péché, pour la grâce qu'il nous fait, pour la foi qu'il a donnée à nos frères et sœurs, à nos enfants. Nous avons de quoi le remercier aujourd'hui. Chaque jour, chaque soir, avant de dormir, nous avons de quoi remercier Dieu. Chaque jour, chaque matin, au lever, nous avons de quoi le remercier. Et pour ce qui est des élus, puisqu'il nous a élus avant la fondation du monde, il nous a destinés, prédestinés à être ses enfants d'adoption. Nous sommes ses enfants. Souvenez-vous de la femme syrophénicienne. Lorsque elle s'est approchée du Seigneur, c'était une païenne, pour que le Seigneur intervienne en faveur de sa fille, disant, il y a ma fille qui est malade, donc elle a poursuivi, elle a commencé à l'appeler fils de David. Jésus ne lui a pas répondu. Finalement, on lui dit, mais tu ne vois pas qu'elle est importune, elle est en train de demander. Jésus dit tout simplement, il dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la donner aux chiens. Donc, ces promesses de guérison, c'est la nourriture des enfants. Ces promesses de délivrance du péché, c'est la nourriture des enfants. Toutes ces choses, ces bonnes choses-là, c'est pour les enfants de Dieu. Mais cette femme, pour la foi qu'elle a eue, eh bien, le Seigneur lui a donné cela. Dieu a fait tout ça pour Israël. Dieu a fait des prodiges pour Israël. Il a combattu pour Israël. C'est pourquoi Israël avait des raisons de le louer. Dieu a fait beaucoup pour les élus, pour ceux qu'il a choisis. C'est pourquoi ces élus ont de quoi le remercier. Chaque jour. Alors, les louanges des élus ne sont pas faites sur base de répétition. La louange des élus vient des choses que Dieu a faites pour eux. Amen.
Moi, je loue Dieu pour ce qu'il a fait pour moi ou pour ce qu'il a fait pour mon frère. Je loue Dieu pour ça. Je ne le loue pas pour quelque chose que j'ai imaginé qu'il a fait. Non, je sais qu'il a fait. Je l'ai vu faire. J'ai vu la chose se faire. Je le loue. Je le remercie pour cela. Pour le païen, se réveiller le matin, c'est quelque chose de naturel. Mais pour moi, je sais que c'est une grâce. Oui. Donc, toutes ces choses, nous savons. Et Israël le louait pour les grandes choses qu'il a fait, il avait faites au milieu d'eux. Et Dieu se plaisait dans l'assemblée d'Israël, au milieu des louanges d'Israël. Comme aujourd'hui, vous pouvez chanter aujourd'hui sous une telle onction que les murs peuvent trembler. Tout dépend de l'onction avec laquelle vous chantez. Vous pouvez chanter aujourd'hui sous une telle onction, vous pouvez louer Dieu sous une telle onction que les malades au milieu de nous peuvent guérir. C'est arrivé. Mais il ne faut pas seulement que cela sorte des brochures. Il faut que cela soit dans nos vies également. C'est vrai, j'ai lu dans une brochure où... pardon. L'évangile surnaturel. C'est une cassette. En brochure, on n'a pas. On ne sait même pas où il a prêché ça, mais ça vient bien de lui. Il a terminé la prédication. Il y avait quelqu'un qui était dans une civière, cancer très avancé. À la fin de la prédication, s'est levé, il a pris sa civière avant même qu'on ait prié pour elle. Amen. Tellement l'onction de Dieu était là. Amen. Si on pouvait prêcher sous une telle onction, si on pouvait chanter sous une telle onction, c'est notre prière. Lorsque nous venons nous assembler ici, ce n'est pas juste un devoir que nous avons à remplir, mais c'est juste pour... Nous voulons le voir au milieu de nous. Surtout que nous chantons, nous voulons le voir. Je désire le voir face à face. Cela vous est donné. Encore un peu de temps, le monde ne le verra plus. Mais vous, vous êtes destinés à le voir. Il est visible aujourd'hui. Vous aussi, vous pouvez dire, moi aussi, je peux dire, ce ne sont pas des fables habilement conçues. Oui. Et dans sa compétition avec sa sœur, Léa, fille de Laban, a trouvé une raison de vivre une vie de louange à Dieu. Elle n'était pas aimée de son mari. Mais Dieu l'a rendue féconde. Elle a eu un fils, Genèse 29, pardon. Et ayant ce fils, elle s'est dit, ben, comme maintenant j'ai un fils, Dieu va, qui ça, mon mari va m'aimer. Eh bien non, lui il aimait toujours Rachel. Il préférait toujours la petite sœur. Et elle va enfanter un enfant, 2, 3, 4. D'abord, au verset 34, elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Donc maintenant, il va s'attacher à moi. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte. Et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Elle avait une raison de louer Dieu, de louer l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Donc, toute une vie de louange. Il faut que vous trouviez une raison de le louer. Et... nous avons pratiquement, pas pratiquement, nous avons tous ici présents des raisons de le louer. Amen. Amen. Un fiston. C'est là où j'ai dit, je t'aurai tout à l'heure. Tu devrais être heureux, fiston. Et pas être stressé tout le temps.
Yes.
J'aime ton yes, fils. Dis-le à ton frère. Il a des raisons d'être heureux.
Amen.
C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. Ne te stresse pas.
Amen.
C'est un événement heureux qui t'attend. Ceux qui sont par là en sont témoins. Hein? Frère Benoît, tu es heureux. Oh, Dieu te bénisse. Demandez-moi si je suis heureux. Je le suis. Toi, tu es heureux. Ah, il m'a devancé, même il le dit. Vous savez, dans ces choses-là, Satan n'aime pas ça. Ce qui fait, il influencera le monde aux alentours pour vous enlever votre bonheur. Mais vous ne vous occupez pas de ça. Vous ne saurez jamais, même si vous le voulez, vous ne saurez jamais satisfaire tout le monde. Jamais. Le plus important, c'est de satisfaire Dieu. Il y aura toujours des critiques. La seule chose qu'on vous demande, c'est que la chose pour laquelle on vous critique, que cela soit juste une diffamation. Que cela ne soit pas vrai. Si c'est vrai, alors il faut changer. Mais si ce n'est pas vrai, continuez votre chemin.
Amen.
On vous critique parce que vous avez dansé lors d'une fête de mariage. Laissez-les critiquer. Vous avez le droit de danser. Maintenant, si vous avez dansé comme les gens du monde, ça c'est votre affaire. Mais si vous avez dansé en chrétien. Maintenant, quand vous regardez comment David a dansé, ton homonyme, quand on regarde comment il a dansé, est-ce qu'on va dire qu'il a dansé en chrétien? Je ne sais pas. Il s'est découvert. Mais David, il s'en fichait de ce que sa femme a pensé. Il dit, moi, j'ai dansé devant l'Éternel. L'Éternel qui a rejeté ton père.
Amen.
Et lui, il lui rappelle, il dit, l'Éternel a rejeté ton père. Amen. Il lui a enlevé le trône. Elle était fille de roi, elle avait ses manières. Et nous sommes aussi fils et filles de roi.
Amen.
Oh. Ne vivez pas ça comme une, comment dirais-je, comme une torture. Si c'est une torture, ne le faites pas alors. Et vous ne vous mariez pas pour satisfaire les gens. Vous vous mariez, c'est pour vous. Parce que Dieu a dit, l'homme ne restera pas seul. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. Je ne fais qu'appliquer la parole de Dieu. Moi, pour tout mariage, je suis content. Je suis heureux. Pour autant que ça se passe correctement, je suis heureux. Et même si ça ne se passe pas correctement, si on corrige la chose, je suis heureux. C'est tout.
Amen.
Proverbe 18. Je m'étais promis de ne pas te rater aujourd'hui. Mon fiston, depuis que les jours approchent, il est de plus en plus stressé. Je ne sais pas si c'est frère Philippe qui le stresse. Et il dit non.
verset 22. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve quoi?
Le bonheur.
Amen.
Amen.
David. Tu as entendu ça? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi, je suis toi. Je lis ça. Mais ce drôme va souffrir. Amen. C'est fini la manière formaliste de jouer le drôme là. Celui-là, avant le mariage, il fallait voir comment il jouait le piano. Maintenant, il devient sage. Mais il continue à le jouer quand même. Gloire à Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et tu es élu pour célébrer cette grâce. Cette grâce qui fait que tu as trouvé une femme. Et maintenant, tu as trouvé la femme. Il y en a qui ne seront pas contents. Hein? Ils ne seront pas contents parce qu'on leur a enseigné que les chrétiens, ils ne dansent pas. Alors, ils ont célébré un mariage comme un enterrement. Et toi, tu le célèbres comme un véritable mariage.
Amen.
Tu es heureux, n'est-ce pas?
Amen.
Tu es heureux ou non? Quand même un peu plus fort que ça.
Oui, oui.
Ah ouais. Noah, toi, tu es heureux à l'avance.
Amen.
Ah, tu entends son amen. Il n'a pas encore vu. Hein. Amen. Ah, je ne vais pas demander aux jeunes filles, parce qu'elles sont timides. Mais il est dit celui qui trouve une femme. Il n'a pas dit celui qui trouve celle qui trouve un mari. Pour dire la Bible telle qu'elle est écrite.
Amen.
Je vais te dire une chose, fiston. Même Papa François, il m'appelle Papa François, ou Frère François si tu veux, même Papa François peut te désapprouver. Mais ne sois pas stressé. Ne sois pas attristé. Il trouve le bonheur. Sois heureux.
Amen.
Vis ton bonheur. Mais il y a la sœur Cécile qui n'aime pas. Laisse la sœur Cécile tranquille. Quand elle trouvera un mari, son mari trouvera le bonheur. Si elle est déjà mariée, ben son mari a déjà trouvé le bonheur. Pourquoi je vais briser le mariage de l'autre? Tu as envie de te réjouir? Réjouis-toi. Mais en tant que chrétien. Ça va? C'est tout? À une fête de mariage, j'étais là. Ma nièce, la fille de mon frère, de mon grand frère, c'est ma fille, j'ai porté quand elle est née et tout ça. Elle est ici à la Louvière. Elle est venue me prendre pour danser. J'ai dansé avec elle. Et on m'a filmé. Je dis, mettez ça dans les réseaux sociaux. Je suis heureux dans ma famille. Il y a un mariage.
Amen.
Hein, quel est ce pasteur qui danse? Je suis quelqu'un comme tout le monde.
Amen.
Amen. Amen. Mes enfants, vous êtes là. Quand le jour où vous allez vous marier, je vais danser.
Amen.
C'est promis.
Amen.
Parce qu'il y en a une ici qui m'a demandé de recommencer mon mariage. Non, je ne peux pas le recommencer.
Non,
pour me voir dans moi, je dis non. Toi, quand tu vas te marier, quand tu vas te marier, je vais danser.
Amen.
C'est promis.
Amen.
Retiens ça. Ça va? Si. À moins que j'ai la sciatique. Je n'ai pas dit ma sciatique. Hein. À moins que j'ai la sciatique ce jour-là. Mais si c'est danser en rampant, je danserai en rampant. Gloire à Dieu. Bon, une dernière fois, David. Tu es heureux? Ça va pas toujours. Hein. Tu es heureux. Sois heureux.
Souviens-toi de ton illustre homonyme. Hein? De l'autre David. Tu sais comment il a dansé, regarde. Mais lui, il a dansé pour autre chose. Pas parce qu'il s'est marié, mais il a dansé pour autre chose. 2 Samuel 6, hein, je crois. On va terminer. On va juste faire la jonction avec les sacrifices et puis on va prier. D'abord, 2 Samuel 6. Verset 12. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un effort de lin. Il dansait de toute sa force. Sa femme l'a méprisé. Verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison. Il était tellement dans l'euphorie, il part pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs. Comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, qui m'a élu, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Maintenant, quel rapport entre le sacrifice et la louange? C'est que les sacrifices, les holocaustes, toutes ces choses, c'est fini. Christ, notre Pâque, a été immolé. L'holocauste a eu lieu. Alors, maintenant, Paul nous dit ceci. Ce qui est agréable à Dieu, Hébreux 13, par lui, verset 15, par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voici les actions de grâce. Il y a la louange, il y a la bienfaisance, il y a la libéralité, il y a toutes ces choses. Voici les actions de grâce. La louange, au milieu de la louange de la louange d'Israël, au milieu de la louange des élus. Amen. Et David dansait de toute sa force. Pourquoi? Parce que l'arche allait dans son lieu de repos. Quand l'arche va dans son lieu de repos, sa place n'était pas dans la maison d'Obed-Edom. Non, sa place était dans le temple là-bas. C'est pour ça qu'il était content, il était heureux. Et nous aussi, nous sommes heureux quand chaque chose est à sa place. Quand chaque chose est faite selon la parole de Dieu. Amen. Louez l'Éternel. Oh oui, car il est bon. Et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse.